Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe Assagetard, le 30 août 1988, 7e conférence.
Pour avancer, dans cet regard sur la Bible, je ne réponds pas aux objections, aux questions, maintenant, je les regarderai, puis on essaiera que ça ne dure pas trop longtemps, puisque certains ont demandé que le temps de réponse aux questions soit plus court. Je comprends, on est limité, hein. Il faut avancer. Mais je répondrai et continuer de les poser, hein. Je reviens un instant sur ce que je disais, pharisaïsme et stoïcisme. Ça, c'est une question très importante, qui serait très intéressante à creuser. Parce qu'on ne peut pas nier un des aspects sur lequel Jésus insiste le plus, c'est constamment, par rapport aux pharisiens, correction sévère. Vous voyez dans saint Matthieu, dans saint Marc, correction très sévère. Or, hein, si nous sommes attentifs à Rome, Épictète, à Jérusalem, Jésus. C'est parallèle. Quand même très étonnant. Et c'est tout à fait différent. Et cependant, il y a des analogies. C'est tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que Épictète, esclave devenu philosophe, qui éduque les hommes dans leur capacité d'être des hommes responsables et libres, pour leur montrer le champ où leur activité est libre, pour leur faire comprendre les limites de cette liberté. Il éduque des hommes en vue, je ne dis pas de l'adoration, mais de la conformité de leur action avec la volonté de Zeus. C'est très beau, c'est très grand. Jésus vient apporter une vie nouvelle, une vie de foi, d'espérance et d'amour. Il vient apporter ce qu'il dit textuellement à Nicodème, une naissance à une vie divine qui se fait à partir de l'eau et de l'esprit. Il rapporte une vie nouvelle et une vie qui est une vie divine. Et promet un bonheur qui est un bonheur éternel. C'est ça qu'il apporte. Et Jésus fait comprendre que pour recevoir cette vie, pour naître de nouveau, il faut le demander librement. On ne peut vivre dans la foi que si on veut vivre dans la foi. Et si on veut librement vivre dans la foi. Parce que que toute cette vie divine nous est donnée gratuitement, mais elle nous est donnée que si nous coopérons. Plus les grâces de Dieu sont grandes, plus Dieu réclame de nous notre coopération. On verra ça, ça fait partie du mystère de la liberté. Mais c'est très important. Et c'est net. Il faut naître de l'eau et de l'esprit. L'eau, c'est le symbole de l'eau. C'est la bonne volonté de l'homme. L'eau, c'est Marie. L'eau, c'est l'Église. Très curieux, hein, le triple symbolisme. Il faut naître de l'esprit et de l'eau. Ce grand passage où Jésus donne une leçon de théologie à un théologien. Un théologien pharisien. Il ne faut pas l'oublier. Les pharisiens, c'était encore une fois des gens très bien. Et Nicodème fait partie des notables. Et les notables étaient la plupart du temps des pharisiens. Presque tous. Bonne famille d'Israël était pharisienne. Il y avait le sens de ce que c'était d'être une bonne famille, bien née, gardant les traditions. Parce qu'au fond, c'était ça, garder les traditions. Et souvent, un aspect extérieur des traditions plus qu'un aspect intérieur. Vous vous souvenez, cette correction violente de Jésus. Il faut nettoyer l'extérieur et l'intérieur. Ça vous est égal. Vous aimez paraître, prier intérieurement, sans aucune espèce d'importance. Donc, par là, il ment. Si l'expression extérieure ne correspond pas aux intentions intérieures, on ment. Et mentir dans les choses religieuses, c'est plus terrible que tout. On falsifie quelque chose qui demande d'être pur. Aussi, Jésus est farouche contre les pharisiens. Parce que les pharisiens ont un sens très fort de la noblesse, de la grandeur, de la valeur de ce qu'ils font. Et ils accaparent. Ils sont propriétaires. Ils accaparent. Ils accaparent le sabbat qui ne leur appartient pas. Et l'accapare, justement, en faisant que le sabbat doit se réaliser de telle manière, par la liturgie. Par la liturgie, on peut accaparer les dons de Dieu. Puisque la liturgie provient des hommes. Elle remonte jusqu'à Dieu, elle est sacrée. Mais on peut, par les règles liturgiques, accaparer les dons de Dieu. Et au fond, c'est ce que font les pharisiens par rapport au sabbat. Et c'est pour ça que Jésus n'hésite pas le jour du sabbat d'agir de cette manière si étonnante. Ceci pour nous faire comprendre ce qui le blesse chez les pharisiens, c'est qu'ils accaparent tout pour eux. Ils se donnent comme des modèles. Et ça, c'est insupportable pour Jésus. Parce que dans le domaine religieux, les modèles sont les saints. Et personne sur la terre n'est modèle d'un autre. Dans les choses religieuses. Vous n'avez jamais à imiter quelqu'un qui vous semble très pieux. Vous ne pouvez pas l'imiter. Vous n'imitez que Marie et que Jésus. Mais ils n'étaient personne d'autre. Ceux-là sont imitables parce qu'ils sont inimitables. Ils nous dépassent complètement. C'est pour ça qu'il faut les imiter. Jésus est farouche à cause de cet accaparement. Alors voyez, par où il y a quelque chose de commun avec les stoïciens. C'est cette attitude réflexive sur l'homme. Le sommet du stoïcisme, c'est la domination de soi-même. Donc, s'appartenir. Et que tout ce qu'on peut faire soit dans la ligne de cette volonté dominatrice totale sur tout nous-mêmes. Donc il y a là quelque chose de commun. Mais c'est très différent par rapport à la matière sur laquelle les stoïciens veulent dominer et les pharisiens. Les stoïciens dominent sur leur propre activité humaine en vue d'avoir une activité volontaire conforme à celle de Zeus et pose ça comme un absolu. Alors qu'en réalité, c'est eux. C'est leur détermination. C'est leur proairesis. C'est leur choix. Tandis que les pharisiens veulent être les causes exemplaires, les modèles dans l'ordre religieux des activités religieuses. Des activités liturgiques. Vous voyez, il y a deux choses différentes au point de vue matériel. Et il y a quelque chose de semblable des deux côtés. C'est que des deux côtés, on veut être cause exemplaire. Je n'insiste pas plus. Je continue cette petite réflexion que nous faisions hier. Je la crois très importante pour nous. Elle est délicate à faire. Regardons comment l'Écriture parle de la liberté. Première réflexion que j'ai faite hier, on parle de l'homme comme image de Dieu, et on ne donne pas dans les dimensions de l'homme, image de Dieu, la liberté. Mais on dit capacité de dominer l'univers, intelligence, amour. Et tout ceci, si on est attentif, doit s'exercer volontairement et librement. Mais ce n'est pas dit. C'est le théologien qui le dit, comme interprétation. Et je dis ça parce que Dieu laisse à l'homme le libre arbitre. C'est saint Augustin qui dirait ça. Il laisse à l'homme le libre arbitre, la possibilité d'obéir et la possibilité de désobéir. Et on le voit tout de suite avec la tentation. Hein? Relisez souvent chapitre 3e dans la Genèse. Ça vaut la peine. Chapitre 3e, la tentation, la chute. Ce troisième personnage dont on n'a pas parlé, génération spontanée, le serpent. Cet animal le plus rusé, qui intervient et qui fait l'herméneutique, donc l'interprétation de la parole de Dieu. Le cardinal Journet, quand on parlait beaucoup de dialogue, aimait de dire « attention, attention, le premier dialogue qui est donné dans l'Écriture, c'est celui de Ève et du serpent. Tout dialogue n'est donc pas bon. Il faut discerner. Il y a des bons dialogues et des mauvais dialogues. » Et voyez, l'astuce des démons, c'est d'interroger. première interrogation qui est révélée. C'est intéressant, puisque je vous disais, pour Sartre, pour Heidegger, l'interrogation, c'est le sommet de la vie intellectuelle. Pas pour moi, pas pour saint Thomas, pas pour vous. Le sommet de la vie intellectuelle, c'est la contemplation. Ce n'est pas l'interrogation. Le sommet après la contemplation, c'est la connaissance affective de l'ami. C'est plus que l'interrogation. Quand je connais quelqu'un que j'aime, l'intelligence est au service de l'amour. Tandis que dans l'interrogation, l'intelligence se dresse pour elle-même. C'est très grand, mais c'est pas ce qui est supérieur à toute la vie de l'intelligence. Platon disait que l'interrogation, c'est le chien de chasse en arrêt. Il est devant du gibier caché. Alors il se met en arrêt. On a tous vu un chien de chasse en arrêt, c'est beau. Tout entier, tourné, vert. Le lièvre, le faisan, caché. C'est en arrêt. Et l'intelligence, quand elle est interrogée, elle est en arrêt. Le dragon face à la femme qui interroge. Dans Apocalypse, chapitre 12. Parallèle avec le chapitre 3 de la Genèse. L'interrogation, quand on interroge quelqu'un, c'est normalement pour entrer en contact avec lui, pour commencer un dialogue, vous interroger. Quand on fait l'autostop, on interroge. Est-ce que vous allez ? Ça commence. Et on interroge. Quand on est étranger dans un pays et qu'on se perd, on interroge. Et on voit tout de suite la manière dont les gens répondent. Les gens très aimables, merveilleux, c'est très compliqué. Alors tant pis, j'ai le temps, je peux faire des études. Suivez-moi. Tiens, ce qui c'est merveilleux, ça. Tandis que d'autres, on les interroge, ils savent tout. Ils donnent n'importe quelle explication. Et vous perdez une demi-heure. Et celui qui vous a donné cette explication est responsable. Quand quelqu'un interroge, qu'on ne sait pas, on dit qu'on ne sait pas. Et si on sait, on répond. On n'a pas le droit de se moquer de quelqu'un qui interroge. C'est important, l'interrogation, dans notre vie. On la remet très en lumière aujourd'hui. C'est pour ça que je m'arrête un tout petit peu. Le démon interroge Ève. Peut-être qu'Adam n'interrogeait pas assez Ève. Et lui disait tout simplement ce qu'il fallait faire. Ça peut arriver, ça. Alors, Adam n'interrogeait pas, de sorte qu'Ève est tout étonnée d'entendre quelqu'un qui l'interroge. Ça prouve qu'elle n'est pas bête. Et c'est vrai, ça. Quelqu'un qui vous interroge jamais, je sais, pas la peine. Très bien, plus qu'à dire, très bien. Puis on attend qu'il y ait le moment où il se trompe. Hein ? Tu vois, tu sais. Vous savez si bien. Ça ne m'étonnerait pas qu'Ève ait entendu une interrogation pour la première fois. Une interrogation qui porte sur quelque chose de très global. Et vous voyez, elle porte sur un précepte négatif. précepte négatif, c'est celui qui, de fait, réclame le plus l'obéissance. C'est plus facile d'obéir à un précepte positif qu'un négatif. Tu ne feras pas ça. Oui, précepte négatif, ça réclame l'obéissance. Et Ève relève tout de suite pour montrer que c'est pas comme ça que Dieu les conduit. Mais le démon attaque de cette manière-là pour montrer à Ève qu'elle n'est pas libre. Vous voyez comment ? Alors là, on touche le sujet très brûlant sur lequel nous reviendrons. On touche que la négation, c'est ce qui manifeste le mieux notre liberté. Et dans toute philosophie où la manifestation et la réalité, c'est la même chose. La négation deviendra ce qui constitue la liberté. Vous voyez, c'est curieux de faire un parallélisme entre le serpent et Sartre. C'est comme ça, puisque on a quitté Sartre tout à l'heure, et on a vu que la liberté se définissait par la négation. Et ici, je vois que le tentateur commence par la négation pour éprouver le bon cœur d'Ève, le libre arbitre d'Ève, et pour la séduire. Vous ne pouvez pas manger des fruits de l'arbre, de tous les arbres du jardin. Cette affirmation qui est très forte. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Oui, la négation. C'est vrai, quand on est en face d'une négation, tu ne feras pas ça. Après la dernière conférence, on vous demande de ne pas trop parler, puisque c'est le grand silence pour la vie monastique. Oui, donc on vous demande de ne pas parler. On vous met une muselière à la sortie. Il a dit ne pas parler. Pas parler trop, puisque c'est le grand silence. Tu resterais bon, même pour vous, comme ça vous pouvez dormir plus vite. Pas faire de bruit, pas parler. La négation réveille en nous le point de vue de notre libre arbitre. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux pas faire ça? Oui. Ça manifeste les limites de notre libre arbitre et l'aspect positif de notre libre arbitre. C'est ça que je crois que je peux dire, que la négation manifeste plus que l'aspect positif, que l'affirmation. Mais de l'ordre de la manifestation, pas de l'ordre de la réalité existentielle. Mais si on confond dans l'idéalisme manifestation et réalité existentielle, vous voyez tout de suite. Donc, on peut dire que c'est avec le péché d'Ève que nous est révélé d'une certaine manière, pas d'une façon immédiate, mais le point de vue de la liberté d'Ève, la liberté d'Adam. Et la liberté aussi de Satan. Satan a une certaine liberté, qui sera intéressant du reste à préciser. Et quatrièmement, nous voyons la liberté de Dieu. Le Père qui punit et qui punit ses enfants. Vous savez bien, dans une famille très nombreuse, quand quand les aînés commencent à prendre le large et qu'ils reviennent en famille et qu'ils veulent entraîner les benjamins et qu'ils arrivent à les entraîner et que les benjamins commencent à faire des bêtises à la suite des aînés, le pain quotidien des familles nombreuses. Le père de famille, quand il s'en aperçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit toute la famille. Voilà ce qui se passe. Lequel va-t-il punir le plus? Le fils aîné, l'aîné, qui séduit. Et vis-à-vis du petit Benjamin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui montrer une double tendresse pour le ramener à lui. Bien, regardez cette page si belle. Dieu, Père qui punit. Celui qui est puni le plus, c'est le serpent, l'aîné. Il a déjà pris de mauvaises mœurs. Qui a quitté la maison paternelle et qui est parti en rôdeur, qui rôde et qui continue de rôder. C'est que ça. Il a perdu sa contemplation. Il est donc le prince de l'agitation. Et dès que le démon est là, il agite tout. Extraordinaire, ça. Dieu va punir le plus le serpent d'avoir séduit la femme. La femme a été séduite par la beauté du fruit. La première fois on parle de la beauté, c'est la beauté du fruit qui séduit. La séduction en soi n'est pas mauvaise, mais la séduction peut conduire au péché. Il faut toujours bien distinguer le beau et le bien. Le bien attire et le beau séduit. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de toute tentation, il y a une séduction. On y reviendra là-dessus, à propos de la liberté. Le beau séduit. Et le démon a fait miroiter, puisque c'est comme ça la séduction, on fait miroiter la beauté, la splendeur, la chose unique. Tu ne verras ça que maintenant. Si tu ne le regardes pas, c'est fini. Alors, il faut bien. On est suspendu. Séduction du serpent. C'est lui qui est le plus puni. Puis, c'est la femme. Puis, c'est l'homme. Alors, je n'entre pas dans ce passage, mais il est très important, je dirais, pour nous, pour comprendre ce que c'est que la psychologie du pécheur. Vous savez bien, du fait du péché, la psychologie prend dans notre vie une place très importante. Plus on est pécheur, plus on est plongé dans le point de vue psychologique. Ça, c'est sûr. Puisque c'est le conditionnement. Il n'y a plus de finalité. Alors que lorsqu'on est mu par l'Esprit Saint, on est au-delà de notre psychologie. On ne s'en occupe pas. Et alors là, il nous est montré la psychologie angélique du démon. C'est intéressant. Et les psychologues, quand ils sont chrétiens, devraient être très attentifs à ça. Parce que quand on a un malade, il faut pouvoir discerner ce qui relève de la séduction, ce qui relève de la mauvaise volonté, ce qui relève de l'indifférence. sont les mobiles. Alors, c'est très important de saisir ça. Et la psychologie angélique du démon nous est donnée ici. Très important ce passage. La psychologie de la femme pécheresse nous est donnée aussi ici. Vous voyez, le péché originel n'a pas les mêmes conséquences dans la femme que dans l'homme. Et la psychologie doit tenir compte de ça. Pour un psychologue chrétien, il sait que l'homme boite différemment que la femme. Qu'il y a un désordre différent qui s'est introduit dans l'homme et dans la femme. Et là, on voit tout de suite. Alors, vous voyez, c'est intéressant puisque les conséquences du péché, comme nous le verrons, diminue la liberté. Le pécheur a moins de liberté que le saint. C'est pour ça que j'aurais aimé que Freud soit en face d'un saint. Au ciel, au purgatoire, il commence à comprendre que tout doit être révisé. C'était au Solchoir, deux professeurs, un de dogme et l'autre de morale. Ils s'étaient dit, le premier qui pénétrera d'autre côté viendra dire à son confrère si c'est bien de continuer d'enseigner la morale comme on l'enseigne, le dogme comme on l'enseigne. Alors c'est le professeur de morale qui est parti le premier. Alors on a demandé au professeur de dogme, qui dans le cas était le père Iris, alors est-ce qu'il a tenu sa promesse? On a demandé ça 8 jours après, hein, il fallait attendre. L'octave. Est-ce qu'il a tenu sa promesse? Alors le père Iris a pris un air très grave. Il a dit oui, il est venu, en songe, en rêve. Il a dit, père Iris, vous savez, la théologie morale, telle qu'on l'enseigne, c'est pas du tout ça. Le dogme, à peu près. Oui, faites attention, hein. On est ici sur la terre, la théologie morale a quand même quelque chose à dire, hein. Mais on voyait très bien ce qu'il voulait dire. Et c'est le professeur de dogme qui disait ça. Le professeur de dogme relativise la morale, et le professeur de morale prend très au sérieux la morale. Toujours comme ça. Dans les examens de confession qu'on doit faire passer pour donner au jeune père la coura, les professeurs de dogme sont très souples, les professeurs de morale sont très stricts. Très curieux, mais c'est intéressant, ça fait partie, vous voyez, des conséquences du péché, ça. Donc là, il y a un passage très intéressant pour voir les limites de la liberté. Elles sont données là, conséquences du péché. On verra pourquoi c'est des limites de liberté. Vous avez ensuite une seconde faute. Vous voyez, les 11 premiers chapitres de la Genèse nous donnent les 4 grandes fautes capitales. C'est pour ça que c'est une vision qui est très étonnante. C'est pas historique. C'est préhistorique. Ce sont des faits qui nous sont donnés. La seconde faute, c'est Caïn, jaloux d'Abel, qui le tue. La première faute est contre l'obéissance. La seconde faute, c'est la jalousie, contre la charité fraternelle. Alors, là aussi, hein, négativement, La faute montre le libre arbitre. L'homme est capable de tuer son frère. Ça va loin, le libre arbitre. L'homme est capable de désobéir à Dieu par orgueil. L'homme est capable, par jalousie, de tuer son frère. C'est vrai. La jalousie, c'est terrible. C'est une mère de famille qui me racontait ce petit détail. Elle avait déjà 6 fils. Elle voulait à tout prix avoir une fille. Elle attendait le 7e. Alors, on lui avait dit, préparez le petit dernier, qui avait 4 ans. Préparez-le quand même, parce que ça va faire une telle chute. Alors la mère dit, bientôt tu auras une petite sœur. Puis, maladroitement, elle prend dans une revue sur laquelle il y avait une petite fille merveilleuse, des yeux bleus, étonnant, extraordinaire. Bientôt, tu auras une petite sœur, elle sera comme ça. Puis tout d'un coup, il devient triste. Alors la mère lui dit, qu'est-ce que tu vas faire à ta petite sœur ? Il s'en va à toute vitesse. Il va chercher dans un tiroir une paire de ciseaux. Et puis il dit, voilà. Voyez l'effondrement de la mère. Mais la jalousie. Elle m'a raconté, c'est direct, hein, c'est pas passé dans un journal. Direct. Elle a beaucoup, beaucoup prié. Puis elle a essayé, par la prière, de lui faire montrer que. Et quand la petite fille, la petite sœur est arrivée, elle n'avait pas des yeux bleus. C'est passé admirablement. Curieux. Oui, l'image est plus séductrice que la réalité. Parce que l'image ne donne pas la bonté. Et la réalité donne la bonté. Un enfant est toujours ému devant un petit enfant. Toujours. C'est même très frappant. Ça m'a toujours bouleversé. Voir des petits de 4 ans, 5 ans, quand ils sont en face à tout petit. Ils sont toujours émus, mais s'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas très bien ce domaine. Mais c'est la réalité qui est bonne qui suscite l'amour. L'image ne suscite pas l'amour. La séduction. Donc la seconde faute montre la limite. La limite. Du libre arbitre par la jalousie. C'était comme une nécessité pour Cain. Troisième faute, le déluge. Le déluge. C'est l'iniquité généralisée. Comme la faute collective. Vous voyez, deux fautes personnelles, puis l'iniquité généralisée. À tel point que tu as un dégoût. Il n'y a même plus le respect à l'égard de l'autre. Donc il n'y a plus rien au point de vue moral. C'est ça l'iniquité généralisée. Quand il n'y a plus de respect de l'autre, il n'y a plus de morale. Fondement, toujours c'est ça. Ça c'est le respect d'ailleurs de l'autre. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de respect. Et Noé est choisi par Dieu pour tout reprendre. Et alors on pourrait dire le manque total de respect. L'homme peut très bien arriver à une attitude telle dans son libre arbitre qu'il est capable de mépriser l'homme et de le considérer comme rien. La justice et la philanthropie, c'est très bien, mais l'homme peut arriver à une telle dégradation qu'il y a l'iniquité généralisée. Tout est repris avec Noé. Et avec Noé, vous savez, il y a une petite histoire très particulière. Noé plante la vigne. Vous voyez comme c'est curieux, hein ? La vigne apparaît avec Noé. Et Noé n'a aucune expérience de savoir ce que c'est que le vin. Et la première fois qu'il boit de vin, c'était tellement bon. Il en prend un peu de trop. Il s'enivre. Et là, une petite histoire avec les fils. Très curieux. Vous voyez, de nouveau, la nudité qui revient. Du début, elle revient là. Les fils qui profitent de l'ivresse de leur père. Et les fils respectueux. C'est très très beau ça. Il y a un discernement très étonnant. Les fils qui profitent de l'ivresse de leur père. Et les fils respectueux. Et là, il y a un discernement qui se fait. Vous voyez, c'est pas une des fautes majeures. Mais là aussi, hein, limite au libre arbitre. Le libre arbitre regarde la dignité de la personne. On respecte une personne dans sa dignité. Mais quand la personne perd sa dignité, seul l'amour maintient le respect. L'amour va plus loin que la dignité de la personne. Quelqu'un libre, il a perdu sa dignité. Ça, c'est sûr. Il devient un objet, comme on dirait aujourd'hui. C'est plus une personne humaine. Au niveau de la justice, on ne tient plus compte. On profite de cette personne comme on profite d'un instrument, d'un objet. Alors que l'amour va maintenir un respect. Après Noé, les hommes ne comprennent pas cette nouvelle miséricorde. Et vous avez l'orgueil collectif de l'humanité avec la tour de Babel. Chapitre 11. Et vous ponctuez les 11 premiers chapitres de la Genèse par le point de vue du mal. Le libre arbitre en creux, si j'ose dire. C'est pas du tout, hein, la révélation de la liberté. C'est la révélation de notre fragilité. Et comment notre libre arbitre dit non. Voyez, ces 5 négations, moi ça m'impressionne toujours beaucoup. Qui vous montrent les 5 possibilités pour le libre arbitre d'oublier la finalité. L'orgueil. La jalousie. sûrement une raison très profonde. C'est pas le hasard. L'iniquité généralisée. Paix de justice. Paix de justice. C'est dans une communauté, quand il y a paix de justice, c'est intenable. Intenable. L'homme est pour l'homme un loup. Hein? Le vieil adage romain. C'est ça, quand il n'y a plus de justice. Puis alors, cette chose très particulière, le manque de respect à l'égard du père, à l'égard de la paternité. Manque de respect. Puis l'orgueil. Je crois qu'il nous est révélé là les limites ou les fêlures. Kierkegaard dirait les fêlures de notre bonne volonté qui tombent, les négations, les péchés, les fautes dominantes. Et vous voyez, c'est intéressant de voir que tout s'achève dans cet orgueil collectif. Et la conséquence, c'est que l'homme ne comprend plus l'homme. La diversité des langues. L'orgueilleux ne peut pas comprendre l'orgueilleux. L'orgueil vous enferme sur vous-même. C'est vrai, ça. Celui qui aime et qui est pauvre et qui est petit comprend celui qui aime et qui est pauvre. Toutes les divisions proviennent de l'orgueil. Tout le temps. Les divisions dans l'ordre communautaire. L'orgueil collectif qui divise. Qui divise. L'orgueil collectif qui voudrait la tour de Babel. Symboliquement, c'est quoi ? C'est le ciel. Qui veut atteindre Dieu. C'est l'humanité qui n'a plus besoin de Dieu. Et au moment où elle dit Dieu n'existe pas, l'humanité part dans une anarchie totale où elle ne peut plus se comprendre. Symboliquement, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, c'est le dernier moment. Après, histoire d'Abraham. Chapitre 12. À la Genèse. Et là, nous tombons dans l'histoire sainte. L'histoire sainte. Tandis que si, c'est quelque chose de très particulier, ça. C'est la préhistoire, c'est fondamental. C'est l'homme pécheur. C'est la révélation de l'homme pécheur. Point de vue psychologique, ce sont des chapitres extrêmement important pour comprendre comment le péché engendre le péché. Il y a une dialectique du péché. La dialectique n'est vraie qu'au niveau du mal, au niveau du péché. Et elle fait la synthèse. La synthèse, c'est l'orgueil collectif. C'est une humanité qui se passe de Dieu. C'est une humanité qui n'a plus besoin de Dieu. C'est l'homme qui est uniquement lui, dans son orgueil. Je crois que c'est très important pour nous. Vous voyez, parle pas par rapport au problème de la liberté. L'Écriture commence par nous révéler les fautes, les grandes fautes de l'humanité. Les cinq grandes fautes de l'humanité. À partir de là, nous entrons dans l'histoire. Et nous voyons tout de suite la vocation d'Abraham, chapitre 12. Yahvé dit à Abraham, va-t'en. Vous voyez que là, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi se béniront toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Alliance nouvelle familiale. La grande alliance familiale avec Abraham, dans la foi. Si vous êtes attentif, vous ne voyez absolument pas comment Dieu réclame d'Abraham un acte libre. Va-t'en, c'est un ordre. Va-t'en, quitte ton pays. Très curieux. Là, nous sommes devant un précepte positif. Et c'est comme ça que commence toute l'histoire d'Israël. Donc, toute l'alliance qui va aboutir à l'alliance nouvelle. Ça, c'est aussi très étonnant. C'est une foi liée à l'obéissance. Et ça commence par un acte d'obéissance. Vous voyez, on reprend tout par l'obéissance. Et la liberté est présente. Abraham aurait pu refuser. En disant tout simplement, on ne déracine pas les vieux arbres. 75 ans, au moment où les évêques sont mis à la retraite, Dieu choisit Abraham. Pas si mal. C'est le vieux tronc sur lequel on va avoir les petites pousses, les petits printemps, le double printemps, le printemps d'Ismaël et le printemps d'Isaac. Très curieux, sur le vieux tronc. Pour bien montrer que c'est le vieux tronc, il commence à 75 ans. Et Sarah, elle sait que c'est le vieux tronc. C'est très étonnant, il faut quand même voir un peu ce qu'il y a de si étonnant, 75 ans, vous voyez ça. Déraciner ce vieux tronc. Quitte ton pays. Je sais bien, il emporte avec lui Sarah. Il emporte avec lui Lot et son épouse. Il emporte avec lui tout un cheptel. C'est quand même quelque chose. Ça commence comme ça. C'est très important le cheptel. Très très important. Il part pas seul avec son bâton de pèlerin en ermite. Pas du tout. Ça commence pas par... Non, non, la vie commune demeure. La famille. Et je bénirai toute la famille. Et je continuerai de bénir toutes les familles. Oui, il n'y a pas d'acte de liberté qui est manifesté. Mais immédiatement après. Alors, de nouveau, cette chose très curieuse. Immédiatement après, on voit une grosse faute d'Abraham. La foi laisse libre arbitre. Et cette faute, elle est grosse pour un homme aussi distingué qu'Abraham. Pour un homme tellement aimé de Dieu qu'Abraham. Vous savez bien, il doit aller en Égypte. Je sais bien que l'Égypte est toujours un pays très dangereux pour Israël. Toujours. Il doit aller en Égypte. Sarah est encore belle. Pour le regard d'Abraham. Alors, mais c'est vrai, c'est ce qui est dit. Il n'y a que le jugement d'Abraham. Abraham, tout en étant croyant, tout en ayant obéi. Il obéit parfaitement. Abraham veut garder son bien. Et son bien principal, c'est Sarah. Oui, il veut le garder. Oui. Il garde à sa manière. Parce que il aime plus sa propre vie que Sarah. Et c'est très simple le petit raisonnement qu'il fait. Tu n'es pas ma femme. Tu es ma sœur. Comme ça, le pharaon sera séduit par ta beauté. Il te prendra dans son harem. Et moi, je serai très bien avec lui. Puisque tu seras auprès de lui. J'aurai des honneurs. Mais cet orgueil monstrueux. Vous voyez, un mari se conduirait comme ça. On va dire, mais quoi, c'est affolant. Et c'est incroyant. C'est extraordinaire, ça. Moi, je trouve ça très étonnant que, immédiatement après la foi, on voit ça. C'est un goujat. Il se conduit comme ça, quoi. Alors que c'est sa femme. Non, le pharaon. Tu peux aller avec le pharaon. C'est comme ça, on sera bien. Et Dieu punit cela. Mais Dieu n'éveille pas la conscience d'Abraham. C'est la conscience du pharaon. Et Dieu réveille la conscience du pharaon. Il y a quelque chose de pas normal. Et le pharaon est furieux qu'on ne l'ait pas averti. Oui, c'est très important pour nous de comprendre que les vertus théologales ne suppriment pas le libre arbitre, notre capacité de pécher. Alors, maintenant, on va tout de suite regarder le terme, parce que de fait, il n'y a pas de révélation explicite de la liberté. Très peu, quelques petits passages. La grande révélation de la liberté, ce sera dans le Nouveau